Los Angeles, quartier de MacArthur Park, 7 juillet 1994. Cet été-là, la chaleur est insoutenable. Elle écrase tout et fait bouillir la cité comme une marmite. Sur le terrain de basket, le soleil a déformé le goudron, mais ça n'empêche pas une dizaine de mecs torse nus de se prendre pour Magic Johnson en enchaînant les paniers.
Hey, Mr. Freak, le monstre! Tu viens nous montrer ce que tu sais faire?
Je ne relève même pas. D'ailleurs, je n'entends même pas. J'ai poussé à fond le son de mon baladeur. Suffisamment pour que le claquement des beats et la lourdeur des basses soient plus forts que les injures. Je longe le grillage jusqu'au début des parkings, où un arbre isolé et encore un peu feuillu offre une petite surface ombragée. Ça ne vaut pas une bibliothèque climatisée, mais c'est mieux que rien pour bouquiner. Je m'assois sur l'herbe sèche, le dos appuyé au tronc. Protégé par la musique, je suis dans ma bulle. Je regarde ma montre, 13h. J'ai encore une demi-heure avant d'aller prendre le bus pour me rendre à Venice Beach, où je vends les glaces sur le boardwalk. De quoi lire quelques pages de la sélection éclectique de bouquins que m'a conseillé Mademoiselle Miller, une jeune prof de littérature de la fac, brillante et iconoclaste, qui m'a plutôt à la bonne. Dans mon sac cohabitent pêle-mêle Le Roi Lear de Shakespeare, La Peste d'Albert Camus, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry et les 1800 pages des 4 volumes du Quatuor de Los Angeles de James Ellroy. Sur mon Walkman, les paroles sombres du dernier album de R.E.M. Beaucoup de rap aussi. Ce sont les grandes années West Coast, le flow de Dr. Dre, le gangsta funk de Snoop Doggy Dogg et la colère de Tupac. Je déteste cette musique autant que je l'aime. C'est vrai que la plupart du temps, les paroles ne volent pas haut. Apologie du cannabis, insulte envers la police, sexe cru, éloge de la loi des flingues et des bagnoles. Mais au moins, elle parle de notre quotidien et de tout ce qui nous entoure. De la rue, du ghetto, de la désespérance, de la guerre des gangs, de la brutalité des flics et des filles qui se retrouvent enceintes à 15 ans et qui accouchent dans les chiottes des écoles. Surtout, dans les chansons comme dans la cité, la drogue est partout et explique tout. Le pouvoir, le fric, la violence et la mort. Et puis les rappeurs nous donnent l'impression de vivre comme nous. Ils traînent leurs guêtres en bas des immeubles, échangent des coups de feu avec les flics, finissent en tôle ou à l'hôpital lorsqu'ils ne se font pas tout simplement descendre dans la rue. Je vois arriver Carole de loin. Elle porte une robe en tissu clair qui, par le jeu des transparences, lui donne une allure légère. Pas vraiment son genre pourtant. La plupart du temps, comme beaucoup de filles du quartier, elle camoufle sa féminité sous des survêtements, des suites à capuche, des t-shirts XXL ou des shorts de basketteur faisant 3 fois sa taille. Chargée d'un gros sac de sport, elle dépasse les lascars, insensible à leurs moqueries ou à leurs remarques déplacées, pour me rejoindre dans mon îlot de verdure. « Salut Tom !»« Salut, » dis-je en retirant mes écouteurs. « Qu'est-ce que t'écoutes ?» On se connaît depuis 10 ans. En dehors de Milo, c'est ma seule amie. La seule personne, mis à part Mademoiselle Miller, avec qui j'ai des vraies conversations. Le lien qui nous unit est unique. Il est plus fort que si Carole était ma sœur, plus fort que si elle était ma petite amie. C'est autre chose sur lequel j'ai du mal à mettre un nom. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais depuis 4 ans, quelque chose a changé. Un jour, j'ai découvert que l'enfer et l'horreur logeaient dans la maison d'à côté, à même pas 10 mètres de ma chambre. Que la fille que je croisais le matin dans l'escalier était déjà morte à l'intérieur. Que certains soirs, réduite à l'état de choses, elle subissait un épouvantable martyre. Que quelqu'un avait sucié son sang, sa vie, sa sève. Je ne savais quoi faire pour l'aider. J'étais solitaire. J'avais 16 ans. Pas d'argent, pas de bande, pas de flingue, pas de muscles. Juste un cerveau et de la volonté. Mais ce n'est pas suffisant pour s'opposer à l'abjection. Alors j'ai fait ce que j'ai pu, en respectant ce qu'elle m'avait demandé. Je n'ai alerté personne, et je lui ai inventé une histoire. Une histoire sans fin qui suivait l'itinéraire de Dalila, une adolescente lui ressemblant comme 2 gouttes d'eau, et de Raphaël, un ange gardien qui veillait sur elle depuis son enfance. Pendant 2 ans, j'ai vu Carole presque quotidiennement, et chaque nouvelle journée était la promesse d'un nouveau rebondissement dans mon histoire. Elle disait que cette fiction lui servait de bouclier pour affronter les épreuves de sa vie, que mes personnages et leurs aventures la projetaient dans un monde imaginaire qui la soulageait de la réalité. Tout en culpabilisant de ne pouvoir aider Carole autrement, je passais de plus en plus de temps à imaginer les aventures de Dalila. J'y consacrais la plupart de mes loisirs, créant un univers au décor de cinémascope dans un Los Angeles mystérieux et romantique. Je me documentais, recherchais des ouvrages sur les mythes, dévorais d'anciens traités de magie. J'y passais mes nuits, faisant vivre, jour après jour, des personnages multiples qui affrontaient eux aussi leur part d'ombre et de souffrance. Au fil des mois, mon histoire prit de l'ampleur, passant du conte surnaturel au récit initiatique pour se transformer en véritable odyssée. Je mis tout mon cœur dans cette fiction, tout ce qu'il y avait de meilleur en moi, sans me douter que, 15 ans plus tard, elle me rendrait célèbre et serait lue par des millions de personnes. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je ne donne presque pas d'interview. Voilà pourquoi j'évite autant que possible les journalistes. Parce que la genèse de la trilogie des anges est un secret que je ne partagerai jamais qu'avec une seule personne au monde. Alors, t'écoutes quoi ? À présent, Carole a 17 ans. Elle sourit. Elle est belle. À nouveau pleine de vie, de force et de projets. Et je sais qu'elle pense que c'est grâce à moi. Une reprise de Prince par Sinéad O'Connor. Tu connais pas ?
Tu rigoles ? Tout le monde connaît Nothing Compares to You.
Elle est debout devant moi. Sa silhouette aérienne se détache dans le ciel de juillet.
Tu veux qu'on aille voir Forrest Gump au Cinérama Dome ? C'est sorti hier. Il paraît que c'est pas mal.
Bof, dis-je sans enthousiasme.
On peut louer Groundhog Day au vidéoclub ou regarder des VHS de X-Files ?
Je ne peux pas, Carole. Je bosse cet après-midi.
Alors ?
Commença-t-elle. Mystérieuse, elle fouille dans son sac de sport pour en sortir une canette de coca, qu'elle secoue comme si c'était du champagne.
Il faut qu'on fête ton anniversaire tout de suite.
Avant que j'émette la moindre protestation, elle tire sur la languette et m'en asperge copieusement le torse et le visage.
Arrête ! T'es dingue ou quoi ? Ça va, c'est du light, ça ne tâche pas ?
Tu parles !
Je m'essuie en faisant semblant d'être fâché. Son sourire et sa bonne humeur font plaisir à voir.
Comme on n'a pas tous les jours 20 ans, je tenais à t'offrir quelque chose de spécial.
Annonça-t-elle un peu solennellement. De nouveau, elle se penche vers son sac et me tend un énorme paquet. Au premier coup d'œil, je vois que l'emballage cadeau est très soigné et qu'il provient d'un vrai magasin. En le prenant en main, je constate qu'il pèse son poids et je suis un peu gêné. Pas plus que moi, Carole n'a le moindre sou vaillant. Elle enchaîne les petits boulots, mais ses quelques économies sont presque intégralement consacrées à financer ses études.
Ben ouvre, idiot ! Reste pas planté avec ça dans les mains !
Dans la boîte en carton, il y a un objet inaccessible. Une sorte de Graal pour le scribouillard que je suis. Mieux que le stylo de Charles Dickens ou la machine à écrire Royal Hemingway. Un PowerBook 540C. Le top des ordinateurs portables. Depuis 2 mois, chaque fois que je passe devant la vitrine du Computers Club, je ne peux m'empêcher de m'arrêter pour l'admirer. Je connais ses caractéristiques par cœur. Processeur cadencé à 33 MHz, disque dur de 500 mégaoctets, écran LCD couleur à matrice active, modem interne, batterie permettant 3h30 d'autonomie. Première machine à incorporer un trackpad. Un instrument de travail incomparable, pesant un peu plus de 3 kg pour un prix de 5 000 $.
Tu ne peux pas m'offrir ça ?
Dis-je.
Il faut croire que si.
Je suis ému. Et elle aussi. Elle a les yeux qui brillent, et sans doute que les miens aussi.
Ce n'est pas un cadeau, Tom. C'est une responsabilité.
Je ne comprends pas.
Je veux qu'un jour tu écrives l'histoire de Dalila et de la Compagnie des Anges. Je veux que cette histoire fasse du bien à d'autres personnes qu'à moi.
Mais je peux l'écrire avec un papier et un stylo.
Peut-être, mais en acceptant ce cadeau, c'est une forme d'engagement que tu prends. Un engagement par rapport à moi.
Je ne sais pas quoi répondre.
Où as-tu trouvé l'argent, Carole ? Ne t'en fais pas. Je me suis débrouillé.
Puis il y a ces quelques secondes pendant lesquelles personne ne parle. J'ai très envie de la serrer dans mes bras. Peut-être même de l'embrasser. Peut-être même de lui dire que je l'aime. Mais ni elle ni moi ne sommes prêts à ça. Alors je lui promets simplement que, pour elle, j'écrirai un jour cette histoire. Afin de dissiper notre émotion, elle pioche un dernier objet dans son grand sac. Un vieil appareil Polaroid qui appartient à Black Mama. Elle me prend par la taille, soulève l'appareil à bout de bras et me demande en prenant la pose.
Stop ! Ne bouge plus, Tom ! Cheese !
Hôtel La Puerta del Paraíso,
Suite numéro 12.
Waouh ! Cette Carole, c'est une drôle de fille,
murmura Billy alors que j'achevais mon récit. Elle avait dans les yeux beaucoup de tendresse et d'humanité, un peu comme si elle me voyait pour la première fois.
Elle fait quoi aujourd'hui ?
Elle est flic, dis-je en avalant une gorgée de café qui était devenu froid.
Et cet ordinateur ?
Il est chez moi dans un coffre-fort. C'est sur lui que j'ai écrit les premières ébauches de ma trilogie des anges. Vous voyez, j'ai tenu ma promesse. Elle refusa de m'accorder cette satisfaction.
Vous l'aurez tenu lorsque vous aurez écrit le troisième tome. Certaines choses sont faciles à commencer, mais elles ne prennent leur sens véritable que lorsqu'on les a achevées.
J'allais lui demander d'arrêter ses phrases définitives lorsqu'on frappa à la porte. J'ouvris sans prendre garde, persuadé de me retrouver face au room service ou à la femme de ménage, mais au lieu de ça... Nous avons tous vécu ce genre d'expérience. Des moments de grâce semblant orchestrés par un architecte céleste, capable de tisser entre les êtres et les choses des liens invisibles pour nous apporter exactement ce dont nous avons besoin au moment précis où nous en avons besoin. « Bonjour », me dit Carole.
« Salut mon vieux », me lança Milo. « C'est bon de te revoir.